franceinter.fr.
CO2 Mon Amour, avec Initiative, solution de financement des projets associatifs, sportifs et scolaires, à découvrir sur initiative.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils ont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un camoué.
Mon Amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Avec Gilles Gaillard et Yann Bouillot à la technique et assisté de Stéphane Combe, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. À une humeur carnet rose dans les Pyrénées. Et oui, les oursons nouveaux viennent d'arriver. Ils sont 4, donc bonne nouvelle dans les Pyrénées. 3 filles, un garçon qui sont nés quand même en 2010. Mais donc, ils ont survécu à leur premier hiver, à ne pas crier quand même sur les toits trop fort, car nos bébés plantigrades n'ont pas que des amis. Aussi, l'association Pays de l'Ours Adette a lancé un concours de prénoms. Bah oui, il s'agit de les assimiler rapidement à notre belle communauté en leur trouvant un nom. Un joli nom de préférence hein, pour pouvoir les appeler à table ou les reconnaître à la sortie de l'école. Bon, un nom qui ne plombe pas d'emblée leur entrée dans le monde des hommes. Hein. On avait bien essayé autrefois avec cannelle, mais ça rimait avec plomb dans l'aile. Bon, vous me direz, les ours n'ont pas des ailes, mais il arrive qu'on les confonde avec des canards sauvages. On pourrait aussi proposer Farid, très joli prénom, mais il ne faudrait pas accumuler les difficultés d'insertion. Gros nounours, ah ben ça c'est une lourde hérédité médiatique. Hein. Apporter pour un petit, d'autant que difficile à porter pour un petit, d'autant que les Nicolas et Pimpronel d'aujourd'hui ne connaissent les ours qu'à travers leur console vidéo. Shrek est à éviter. Il y a assez de monstres poilus mal polis qui hantent les forêts, ainsi que Winnie et Casimir qui rappelleront trop vos soirées pyjama régressives. Alors faites turbiner votre imagination. Les prénoms à la mode, alors tels Nathan, Zoé, Jules et Emma, vaut mieux éviter. Et oui, trop de monde risque d'accourir au moment de la tartine de miel du goûter. Ainsi que les prénoms de vos enfants, ce qui leur évitera 5 ans de psychanalyse quand ils seront en âge de comprendre. Non, je crois qu'il vaut mieux relancer les noms à coucher dehors. D'ailleurs, les nounours couchent dehors 6 mois de l'année. Fulgence, Isidore, Childebert, Clodomir, Rodogune. Rien que pour fleurir d'un sourire les arides documents administratifs qui ne vont pas tarder à encadrer leur existence. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Alors, carnet rose dans les Pyrénées, mais aussi carnet un petit peu plus sombre quand même du côté du Kenya.
In Africa, we need leadership. We need leadership that puts the people of Africa.
Un oiseau est passé, s'est posé sur une branche et l'arbre a pris la plume pour écrire au prix Nobel de la paix. Cher Wangari Maathai, c'est la seconde fois que tu me plantes. La première fois, c'était 20 ans plus tôt. J'étais pas aussi fort qu'aujourd'hui. Mes branches ne grimpaient pas si haut dans le ciel. Elles ne chantaient pas encore avec le vent. Et je te dois de m'avoir installé ici, dans cette terre rouge, avec des milliers d'autres femmes. Mes racines y ont puisé la force. Elles ont irrigué mon être, mais aussi toute une région. Et à travers elles, bien, c'est toi qui m'as transmis cette vitalité. Aujourd'hui, tu t'en vas pour toujours, sans même faire abattre l'un des nôtres pour fabriquer ton cercueil. Et oui, merci pour cette ultime attention. Tu me plantes en me laissant un peu désemparé, mais je resterai fort face à la destruction humaine parce que tu nous as appris à résister et à retourner les désespérances. Tu sais, tu aurais pu aussi être des nôtres. Hein. Et oui, tu as ta place pour toujours dans la canopée, et si près du ciel et de la ceinture verte. Alors tu étais la femme qui plantait les arbres, mais Giono aurait aimé aussi faire partie de ce lot. Je vous l'ai dit, le carbone énergie donc vont nous animer tout au long de cet après-midi avec vous, Frédéric Bandré. Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis.
Vous êtes ingénieur en environnement de formation, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, en voulant entre autres la fabrique de nos peurs, l'atlas du changement climatique et donc chez Fayard vient de sortir la dictature du carbone. Bon, donc avec un titre pareil, on se dit qu'est-ce qu'il y a de pimpant et de revigorant derrière cela. Pourquoi vous avez fait ça donc?
Alors c'est pas du climato-scepticisme, hein, dictature, c'est dictature. Parce que, bah déjà en soi, le trop de carbone a fait du climat le dictateur de notre avenir, parce que Malgré tout, le carbone, on ne fait que parler de nuit. On n'entend que lui jusqu'à nous étouffer. Ce que je crains, c'est qu'un jour ou l'autre, on en ait marre que plus personne n'écoute. Et le problème, c'est que derrière le carbone et le climat, on a mis tous les autres problèmes d'environnement. Donc, on pense que le mieux carbone sera le mieux de l'environnement, ce qui n'est pas le cas. Quand on regarde bien les choses, le mieux carbone, parler en permanence de carbone, les politiques de décarbonation ne changent pas fondamentalement le système de notre société, ne changent rien au fait que cette société, ses piliers sont la technique, sont la performance, l'audit permanent, le court terme, la finance et toujours l'individu. Et donc ce que les écologistes pensaient devoir être le flingueur du système, hein, le carbone et l'écologie derrière, est devenu le porte-flingue. C'est-à-dire que c'est devenu l'huile qui améliore les rouages du système. Et dans un monde en crise, on est en train de démanteler l'État et de considérer que les biens communs doivent être gérés par le privé. Ben, ce carbone ne fait qu'accélérer les choses au risque d'exercer une dictature sociale sur l'individu. Qui doit tout faire, tout supporter et maintenant sauver la planète. Et ce que je crains vraiment, c'est que la société finisse par dire, les élus par exemple, finissent par dire, il y en a marre, et qu'on mette tout dans le même panier, qu'on refuse, hein, l'écologie, ça suffit. Vous savez qui a dit ça? Ça risque de devenir un leitmotiv.
Bien, mais écoutez, vous avez le ton, hein, c'est clair, c'est assez net, c'est vigoureux. Thierry Salomon nous a rejoint pour le scénario des négawatts, nous en parlerons aussi avec lui, c'est très intéressant. Donc les watts que l'on ne consomme pas, il paraît que c'est possible de faire autrement. Et on nous a peut-être un peu bourré le mou quand même. Et donc le scénario des négawatts est là aussi pour le prouver. Jean-Marie Pelt, l'un et l'autre, bien sûr. Vous le connaissez. Alors la semaine dernière, on était sur le canal du Midi, mais on va continuer parce qu'il y a un arbre qu'il aime beaucoup et on va le découvrir avec lui. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous étions sur le canal du Midi la semaine dernière, on se posait des questions sur la diversité d'arbres qu'il faudrait employer et vous avez envie de pointer aujourd'hui, nous présenter un arbre.
Oui, cet arbre est un arbre que j'aime beaucoup, qui est le micocoulier, qui est un arbre symbolique de la Provence, mais qui, étrangement, est aussi très présent à Romorantin. Et si on vous demande qu'est-ce qu'il y a de commun entre la Côte d'Azur et Romorantin, vous dites les micocouliers.
Et là, on vous regarde avec de grands yeux, on est ébahis, c'est incroyable.
Qu'est-ce que c'est?
Voilà, on ne demandera pas où est Romorantin, mais ça fait un lien.
Oui, ça fait un lien, tout à fait. Alors, cet arbre a pour moi une histoire particulière, parce que mon ami Jean Chélini, qui était adjoint au maire de Gaston de Fer, il y a 30 ans, était chargé des espaces verts à Marseille. Et un jour, il me téléphone, il me dit, Jean-Marie, écoute, j'ai absolument besoin de toi, parce que les platanes, nous l'avons évoqué la semaine dernière, de l'avenue du Prado sont en train de crever, et on ne sait pas quoi faire. J'ai dit, ils ont le champ coloré, j'ai dit, ils vont crever.
Oui.
Ah, tu crois? J'ai dit, oui. Ah oui, il me dit, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont morts, mais écoute, viens. Alors j'ai pris le train, j'étais à Marseille, j'ai vu que tout le bas de l'avenue du Prado, près du jeune David au bord de la mer, était déjà dépourvu de platanes, c'était sinistre. Alors on a décidé de mettre des micocouliers. Et quand je vais à Marseille, je vois les micocouliers qu'on avait décidé de planter ce jour-là. Donc ce voyage avait été utile. Et j'aime beaucoup cet arbre parce que d'abord il a une très longue histoire, il était très apprécié des Grecs anciens. Homère a écrit sur cet arbre-là parce qu'il donne des petits fruits sucrés qui s'appellent les microcouls. Je trouve que c'est joli pour un nom de fruit.
Oui.
On ne les consomme pas. Mais c'est donc une histoire déjà ancienne. Et puis Pline aussi, au 1er siècle, avait dédié les micocouliers à la déesse Diane, qui est la chasseresse. Et moi, je fais un lien et je dis, c'est pour ça qu'il y en a Romorantin qui est en Sologne, où il y a beaucoup de chasse. Mais ça, c'est nous qui faisons évidemment le lien.
La Sologne est assez récente.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un arbre qui donne un très beau bois, un bois d'œuvre, un bois qui est très dur, qui est imputrescible, qui est souple, qui a été très utilisé pour fabriquer les engins agricoles autrefois, quand l'agriculture était tirée par les chevaux, les harnais, tout ça, les brouettes, les tombeaux.
C'était des micocouliers.
C'était du micocoulier dans le Midi. Alors, on avait considéré que cet arbre était sacré, les Celtes déjà, avant les chrétiens, et puis les chrétiens ont repris en compte l'idée, ils ont dit c'est l'arbre anti-diable.
Oui.
C'est comme ça qu'on l'a qualifié, l'arbre anti-diable. Alors du coup,
c'était Vade Retro.
Alors on l'a planté à l'entrée des églises, et puis aussi sur les places, ce qu'on appelle l'arbre à palabre, l'arbre au milieu d'une place où tout le monde est en dessous pour jouer aux boules, et voilà, la pétanque. Et puis à la Révolution, ben, il a été mal vu de nouveau parce qu'il était un symbole religieux. Alors on n'était pas mécontent de le faire disparaître quand on pouvait l'expédier. Et puis après est arrivé à le platane, et puis le platane a régné en toute puissance, et puis le mucocoudier, il a été, si je puis dire, aligné, malgré le fait qu'il était très résistant à la pollution, qu'il n'était pas allergisant, qu'il donnait un bois excellent, on l'a un peu oublié. Mais il reste le symbole de la Provence. Et aujourd'hui, il reprend du poil de la bête, dans la mesure où les platanes, malheureusement, perdent pied. Alors pourquoi y en a-t-il à Romorantin? Ça, c'est une question subtile.
Alors, pourquoi y en a-t-il Jean-Marie à Romorantin, en Sologne?
Parce qu'un entrepreneur qui s'appelait Jean-Baptiste Hureau l'a planté en 1896 et qu'il s'est évadé de l'endroit où il l'a planté, puis il a été partout. Il paraît qu'il y en a beaucoup, je ne les ai pas vus ceux-là, il paraît qu'il y en a beaucoup et qu'il est presque envahisseur, donc très conquérant. Alors, il se pose une question, Romorantin, ce n'est pas la Méditerranée, donc l'hiver est parfois froid. Alors, est-ce qu'il résistera donc au froid? Non, quand il est jeune, il ne résiste pas au grand froid.
Il claque.
Mais quand il est adulte, il résiste pas mal au froid. L'hiver, c'était l'hiver 56, où il a fait très très froid dans le midi. Les oliviers ont crevé, mais pas les mycocouliers. Alors on s'est quand même posé la question de savoir ce mycocoulier de Romorantin d'où venait-il. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'est pas le même. C'est une autre espèce. C'est une espèce qui vient d'Amérique. Et donc, c'est un mycocoulier qui est un peu différent. Il a un tronc qui est un peu différent. Il est un peu plus pleureur que le mycocoulier de Provence. C'est une espèce différente. Et voilà donc qu'on tombe sur ce cas de figure étonnant que l'histoire du mycocoulier est la même que l'histoire du platane. Parce que le platane, c'est un hybride entre un platane américain et un platane de l'Europe de l'Est. Mmh. Et les platanes qu'on a plantés partout, c'est cet hybride. C'est-à-dire que le mycocoulier a la même histoire que le platane. Il y a des mycocouliers qui sont venus d'Amérique, il y en a d'autres qui sont venus du Sud. Il s'appelle en latin Celtis australis, ça ne veut pas dire qu'il vient d'Australie, ça veut dire qu'Austral, ça veut dire Sud. Il vient donc des terres du Sud. Alors cet arbre me paraît avoir un certain avenir. Il y en a un beau, paraît-il, mais je n'ai pas vu celui-là. Tout près de la cathédrale de Toulouse, près d'une brasserie très connue qui s'appelle le Café Silène.
Oui.
Vous connaissez?
Mais je vois à peu près Saint-Cernin et où ça peut se trouver, tout
c'est,
ça.
C'est oui, ça, oui, voilà. Oui. Alors à Toulouse, il y a beaucoup de mycocouliers et c'est un arbre qu'il faut protéger parce qu'en plus, il a cet intérêt de vivre très longtemps. Il peut vivre des centaines d'années. Donc voilà un arbre qu'on aime bien. Hein. Et puis, il y en avait beaucoup à Nîmes. Alors Nîmes, il y a un problème. Oui. On a coupé beaucoup d'arbres.
Oui.
Pourquoi on a coupé beaucoup d'arbres? Parce que la mode est au tout minéral. Chers amis qui nous écoutez, faites gaffe. On va vous faire partout des places minérales. Mmh. Parce que les architectes ont tout d'un coup eu cette lubie. Ce n'est pas les gens qui ont décidé. Ce n'est pas les politiques qui suivent les gens. Les politiques suivent les experts, les architectes, comme toujours.
Ce
n'est pas les politiques qui décident une fidée, mais ce n'est pas eux qui ont l'idée. Alors moi, je suis très, très hostile à cette marotte actuellement de faire du tout minéral partout, de couper des arbres partout. Et à Nîmes, c'est dramatique parce que la ville a été condamnée par le tribunal administratif. Et il semblerait que beaucoup d'arbres y aient disparu. Moi, j'ai vu le chantier l'année dernière qui était extraordinaire. C'était un chantier spectaculaire. Mais il paraît que maintenant, à l'arrivée, les arbres ne sont plus revenus.
Non.
Donc il faut que nous nous élevions contre la mode du tout minéral. Et puis, il faut dire aussi que ce n'est pas la peine de faire la guerre au géranium. Parce que l'autre marotte, ça c'est les architectes des bâtiments de France, c'est de faire disparaître les jardinières de géranium et de pétunia qu'on mettait sur les rambardes des ponts ou sur les balcons. Il paraît que ça empêche de voir l'architecture et qu'ils doivent disparaître tout de suite. Alors, pitié pour les braves gens qui ne sont pas complètement idiots, qui aiment leur géranium et qui aiment d'avoir des plantes dans les villes et des arbres dans les villes.
Vous n'avez pas pensé une seconde faire disparaître les architectes? Non, on n'est pas comme ça. Mais non, bien sûr.
Mais non, on n'est pas.
Ne nous écrivez pas. Non, c'est pas la peine.
Mais non, mais on les aime bien. Mais je sais ce que c'est pour avoir bataillé avec les architectes du bâtiment de France.
Sur deux mandats, quand même.
Oui, quand j'ai restauré les récollets, en particulier notre institut d'écologie, je dois vous confesser que je ne les ai pas écoutés et que j'ai tout fait à ma tête. Ce qui stupéfiait le maire, disant, t'as quand même du culot. Bien sûr que j'ai du culot.
Oui.
Eh bien, c'est bien réussi, tout le monde dit que c'est très beau maintenant.
Voilà, c'est pour ça qu'on vous aime aussi. Merci beaucoup, cher Jean-Marie. Et puis donc, on va poursuivre, alors là, ça va être un autre voyage au pays donc, du carbone avec Frédéric Noé, qu'on va rejoindre dans quelques instants, avec cet ouvrage qui s'appelle « La dictature du carbone ». Parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est parti, tout doit passer à l'aune du carbone. Donc on va se dire, on se calme un petit peu.
Parce que, oui. c'est une autre marotte. Voilà. Il y a plein de marottes. Il y a aussi les radars pédagogiques. Ah oui. Dans le moindre village, le moindre hameau, il y a marqué 62, 61, 60, 59. Bon, il faut vous renseigner. Oh, puis il y a l'extraordinaire marotte de faire des doudanes partout. Mmh. Ça, c'est une marotte extraordinaire. Oui. Je ne sais pas si ça ne bousille pas les voitures. Mais c'est les marottes. Oui. Tout le monde fait la même chose.
C'est très bon pour les kinés, parce que ça bousille les colonnes vertébrales.
Tout à fait.
Voilà. Merci Jean-Marie. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. There were voices shot to the skies. There were cries sent to unblind eyes. There were downturned palms unraised. From fist across the drowned out in praise. There were shouts shot from the back of tongues. Swallowed down throats to choked up lungs. Joy brimming from the deepest well. From the source sprung to break the spell. How long? Once a raindrop became a sea. From one sea grew a forest of trees. Two bodies and generations came to walk the ground and disappear again. Till a siren blew among the reeds, warning of crops that no longer feed. Sending buds up to flower and bloom under cover of the darkest moon. Across the western lands.
Choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur, c'était Pierce Faccini sur France Inter, CO2 Mon Amour en direct, Frédéric Danhé, avec cet ouvrage La dictature du carbone. J'en ai assez, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler du carbone à tout propos, d'être invité qui s'appelle CO2 Mon Amour, d'être accusé de menacer la planète en n'isolant pas ma maison, d'être rappelé à l'ordre par des messages vantant les petits gestes qui jouent sur le registre de la peur, de la culpabilité, en passant du rationalisme à l'optimisme béat. Voilà, ben ça fait du bien. C'est-à-dire, en fait, ce que vous reprochez, c'est qu'on a, je vais le résumer comme ça, d'avoir pipolisé le carbone.
Oui, on l'a pipolisé et on en a fait un acteur pour continuer à renforcer le rôle du consommateur, de l'individu qui est la clé de voûte du système économique, qui doit acheter, qui doit maintenant acheter vert et qui maintenant doit être le seul à pouvoir sauver la planète. Donc l'individu reste un individu, un consommateur et surtout pas un citoyen. Et on oublie toute la réponse sociétale qui, elle, a finalement été déléguée au marché du carbone, mais c'est une autre histoire.
Alors ça, vous l'étayez drôlement bien dans cet ouvrage. On va rappeler quand même une petite chose. Vous avez écrit plusieurs fois l'Atlas du changement climatique. Donc vous ne faites pas partie, parce qu'il y a des gens qui doivent se dire « Mais attendez, ce type-là, il nie le climat, il nie le réchauffement, etc. » Donc rappelez-nous quels sont les enjeux, on va dire, mondiaux, les enjeux, on va dire, très modestement français, puisque nous représentons moins de 1% de la population mondiale quand même. Mais nous sommes un pays occidental, donc développé avec du carbone dans tous les sens. Donc quels sont les enjeux, s'il vous plaît?
Les enjeux sont simples. Je vais rappeler quelques chiffres et je fais référence à un homme qui m'est cher, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui sort un livre bientôt qui s'appelle « Les fluctuations du climat », où il démontre que l'augmentation de la température moyenne en France au cours du XXe siècle est de 1,5
degré. Ce qui est énorme.
Ce qui est considérable. Et qu'on a déjà pris 0,2 degré au cours de la première décennie du XXIe siècle. Et cette augmentation...
On est en 2011, donc depuis 2000, on a pris 0,2.
Voilà, on a pris 0,2. Ouais. Cette augmentation et la rapidité de cette augmentation, 80% de ces 1,5 ont été acquis durant les 30 dernières années. Et cette rapidité et le fait que cette rapidité a été observée partout dans le monde n'a aucun autre équivalent dans l'histoire, en tout cas dans les 1000 dernières années. Bon, la cause, on la connaît, c'est le surplus de carbone. Pour donner un chiffre, en France, on émet, chaque Français émet à peu près 7 tonnes de carbone. Mmh. Si on intègre l'énergie grise, le carbone gris, c'est-à-dire tout le carbone qui se trouve dans les matières importées, les écrans, les voitures, etc., on en est à plus de 9 tonnes. Ce qui fait que si on intègre...
Nous avons délocalisé nos usines, mais aussi on a délocalisé notre carbone.
Ce qui fait que notre facture carbone est finalement à peu près en Europe 40% supérieure à ce qu'on croit qu'elle l'est. Mmh. Et la facture carbone de la Chine, du coup, est 30% inférieure. Cette externalisation de notre carbone nous a fait économiser, nous, pays occidentaux, à peu près 1,6 milliard de tonnes de CO2. Alors le rapport CO2 carbone, je ne sais plus, on divise par 3 ou... J'ai plus le chiffre en tête. On a économisé sur notre compte carbone 1,6 milliard de tonnes de CO2, juste en ne comptant pas ce carbone qui nous revient quand même par les importations. Voilà les chiffres.
Et donc, au-delà de l'intensité du soleil, au-delà de la variation de l'orbite et de l'axe de rotation de la Terre, de la couverture des nuages, parce qu'on le rappelle, la vapeur d'eau, c'est quand même un des principaux, sinon le principal gaz à effet de serre. Si on ne met pas la variante humaine dans cette affaire-là, on ne comprend pas. C'est-à-dire que donc,
c'est toujours un raisonnement par défaut. Si on n'entre pas l'homme dans l'équation, je caricature un peu, si on n'entre pas l'homme dans l'équation, on ne comprend pas ce que l'on observe. Cela dit, on constate, quand on analyse très finement le type de carbone, on parle d'isotopes, je n'entrerai pas dans le détail, dans l'atmosphère, on se rend compte que ça correspond au type de carbone qui se trouve dans les combustibles fossiles. Donc il y a quand même un lien un peu fort, une corrélation qui, année après année, se renforce dans cette perspective.
Alors ce que vous pointez dans cet ouvrage, c'est qu'on est en train de passer, on va dire, du PIB qui a été donc le fétiche de ces 50 dernières années, maintenant un autre indicateur qui est en train de devenir un indicateur carbone. Ne vous inquiétez pas, le PIB, il a encore de beau reste devant lui. Bon, lui, il avait toute sa pertinence à la sortie de la guerre, où là, il fallait accumuler des biens pour attraper les Américains, donc on s'est fabriqué cet indicateur dit de progrès. Après, qu'est-ce que l'on met derrière le mot progrès? Et ce que vous craignez, c'est que maintenant, on ne passe que par les fourches codines d'un indicateur carbone.
On va passer d'un indicateur à l'autre. Effectivement, à l'époque, alors le PIB, ça remonte à Roosevelt. Il avait sa pertinence, il avait sa cohérence parce qu'il fallait accumuler des biens. Et là, effectivement, on partait de pas grand-chose. Donc, le plus pouvait être équivalent au mieux. Voilà, donc, et l'idée de progrès, c'était ça, durant les 30 Glorieuses, c'était il faut accumuler des biens, il faut arriver au niveau des États-Unis. Donc le PIB en soi n'est pas mauvais, d'ailleurs pour des pays qui partent de très très bas, le PIB est toujours un indicateur de qualité, parce que pour atteindre un certain niveau de vie, il faut faire des investissements publics, il faut avoir un frigo, une gazinière, et tout ça, ça fait du PIB. Aujourd'hui, le monde, on se rend compte qu'il est en quantité finie, il y a ce problème du climat, il y a la raréfaction des énergies fossiles, il faut changer d'indicateur. Le problème, c'est qu'on ne veut se doter que d'un seul indicateur, qui est le plus simple, qui est le plus formalisé, qui est le plus mathématisé, c'est l'indicateur carbone. Mais passer d'un indicateur monolithique à un autre, les deux fabriqués par les mêmes experts, je ne vois pas vraiment ce qu'on va changer. Surtout qu'on est dans une société qui ne fait que faire des audits, qui ne fait que promouvoir la performance, qui ne fait que mesurer en permanence. Je ne vois pas vraiment ce qu'on va gagner. Donc en soi, le carbone, c'est un excellent indicateur, comme le PIB. Mais ça n'est qu'un indicateur, ce n'est qu'une représentation de la réalité. Et si on le prend comme valeur absolue, bah là, il s'impose à la réalité et on perd complètement, la mainmise sur la société. Donc,
parce qu'en même temps, ce qui est intéressant aussi dans ces indicateurs, c'est qu'on va dire que c'est une radiographie qui peut être quand même assez stimulante pour se dire, voilà, on est face à ce problème, on le mesure, plus ou moins bien, mais enfin, en tout cas, on le mesure, et ça va nous permettre, à partir d'une mesure zéro, d'essayer d'évoluer dans un sens positif.
Ah ben, bilan carbone... expertise carbone, tout ce que vous voulez, ce sont des outils fabuleux. Fabuleux. C'est une radiographie très précise d'un système, d'un produit, d'un métier, c'est fabuleux.
D'une administration, d'une ville, d'une collectivité.
Voilà, on voit effectivement comment ça fonctionne. On voit les flux, on voit ce qui rentre, ce qui sort, ce qui est perdu, ce qui est gagné. Oui, mais une fois que vous avez votre radio, qu'est-ce que vous faites?
Ben vous faites ou vous faites pas.
Vous faites ou vous faites pas. Ou alors vous faites dans ce qui est le plus simple, dans ce qui va vous rapporter le plus, et vous faites surtout, et on n'est que des hommes dans une société qui s'impose à nous, dans un système de valeurs qui s'impose à nous, on ne fait qu'en fonction de ce système de valeurs et de croyances qui est le nôtre, hein, qui est axé sur, sur ce que montre le PIB, qui est axé sur la surconsommation, qui est axé sur la production en permanence, sur l'accumulation. Et dès lors qu'une action remettrait en cause ce système de valeurs, et ben cette action ne la fait pas. Tout simplement. Et puis surtout, en avoir en tête que le bilan carbone, on oublie complètement le reste.
Alors voilà, parce qu'on pourrait mettre d'autres indicateurs. Indicateur eau, indicateur sol, indicateur, je sais pas, forêt.
Il y en a plein.
Même si d'ailleurs le carbone englobe tout ça.
Il englobe tout ça, oui, parce qu'on peut tout ramener par des facteurs d'équivalence au carbone. Comme on peut tout ramener au sol, à l'eau, tout ça, c'est des fonctions mathématiques. Si vous voulez, ce qui est important, un indicateur nous indique notre avenir et les moyens d'y parvenir. Mais il ne peut plus être tout seul et il ne peut plus être fixé uniquement par un collège d'experts. Donc à cet indicateur carbone qui peut et doit être dominant, on doit ajouter d'autres indicateurs.
Non, ce que vous dites, c'est important, c'est que derrière le débat technique des indicateurs, il y a la démocratie.
Ah ben c'est la démocratie. On s'engage vers un avenir difficile qui va nous coûter beaucoup à tout point de vue et les citoyens n'auraient pas leur mot à dire. Moi, je prône que et les élus du peuple et le peuple lui-même, via des conférences de consensus, débattent de ce qu'ils veulent voir comme indicateur, donc de la composition du tableau de bord d'indicateurs et au sein de chacun de ces indicateurs, qu'ils débattent des variables qu'on y met. Mmh. Et puis derrière, ça paraît très technique, mais c'est fondamental, de la pondération entre toutes ces variables. C'est tout simplement pour dire, est-ce que agir aujourd'hui sur l'eau sera aussi important dans 10 ans qu'agir sur le chômage, qu'agir sur le suicide, qu'agir... Vous comprenez, si on met tous les indicateurs sur le même niveau, pour un politique, agir sur le chômage ou agir sur la biodiversité, ce sera pareil, parce que la moyenne au final, ce qui compte, c'est qu'elle baisse. Donc il faut des débats démocratiques, il ne faut surtout pas que la question des indicateurs échappe aux citoyens, comme elle lui a échappé depuis la fin des années 40. Et ça me semble... fondamentale.
Alors, on va être là très, très concret avec une famille à énergie positive. C'est-à-dire que là, on va retomber dans votre quotidien aussi. D'ailleurs, vous le touchez. Hein. Ça a toujours été votre credo. Il n'y aura pas d'écologie d'environnement sans l'aspect social. Sinon, ce n'est pas la peine. On a juste un tout petit peu oublié. Alors, vous avez une association qui s'appelle Elian, qui fait un boulot assez formidable dans le département de l'Ain, dont le but est donc la réduction de la consommation d'énergie. C'est un peu un équivalent, si vous voulez, des espaces info-énergie. Donc, ils se battent vraiment depuis longtemps. Et on va rencontrer Sophie Bichardian qui est dans la Bresse et qui va nous raconter pendant 6 mois, elle a participé à un concours famille à énergie positive. Donc qu'est-ce que l'on a fait, Sophie, racontez-nous.
Alors nous avons participé à un concours l'année dernière, ça s'est déroulé en hiver. Donc le but du concours qui nous a été proposé par l'association Eliant était de relever un défi. Il fallait faire une économie de 8% d'énergie, donc toute l'énergie qu'on consomme à la maison sous toutes les formes.
Alors, vous étiez déjà un peu concerné, j'imagine, par le sujet. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ont été vos actions?
Alors à la maison, bon, nous, on a essayé de changer quelques pratiques. Bon, ça n'a pas été facile de trouver des points essentiels parce qu'en fait, on était déjà une famille qui était un petit peu impliquée dans la préoccupation de l'environnement. Mais bon, comme on participait au concours, on voulait quand même relever le défi. Donc on a essayé de trouver dans la maison qu'est-ce qu'on pouvait encore changer. Alors principalement, on a changé le mode de chauffage à la maison. Enfin, la manière de chauffer, notamment nos chauffages électriques, parce qu'on est chauffé dans les chambres avec un chauffage électrique. Et en fait, j'avais une habitude avant, c'est que le matin, quand on partait au travail, j'éteignais tous les radiateurs. et je les rallumais le soir en rentrant.
Et vous consommiez sûrement beaucoup plus, d'ailleurs.
Et voilà, alors si vous voulez, quand on en discutait comme ça avec les gens, tout le monde disait, tout le monde avait un peu un avis différent sur la question. Puis cette année, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de tester, puisqu'il y avait en fait des relevés comparatifs par rapport à l'année d'avant. Et donc cette année, j'avais décidé que je baissais légèrement le chauffage pendant la journée, mais que je ne coupais pas systématiquement. Et donc je pense qu'une bonne partie des économies qu'on a pu réaliser a pu se faire avec le chauffage. Alors ce qu'on avait fait nous aussi à la maison, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais par exemple, on a essayé d'optimiser l'usage du four. Donc au lieu de faire cuire un gâteau, j'en faisais deux, je les ai cuits en même temps. Il y en a un gâteau partait au congélateur et la fois d'après, on ne consommait pas d'énergie. Donc ça, c'était aussi des petits détails. Bon, c'est vrai que le four, c'est quand même un appareil qui consomme beaucoup. Et donc là, ça permettait d'optimiser un petit peu.
Vous avez dégivré plusieurs fois votre réfrigérateur aussi ?
Non, on l'a pas. Alors ça, on nous avait dit qu'il fallait le faire, mais c'est vrai qu'en revanche, nous, on avait du mal parce qu'en fait, on a une famille nombreuse et le congélateur est toujours plein. Donc on a attendu un peu. Bon, on a beaucoup insisté alors auprès des enfants pour qu'ils éteignent des appareils qui étaient en veille, qui soient vraiment éteints. Donc la télévision, ça c'est un petit peu leur charge. Et puis on essaie d'insister aussi auprès des enfants, mais ça c'était beaucoup plus dur pour qu'ils éteignent les lumières derrière eux. Donc il y avait toujours la petite rengaine, éteigne les lumières. Nous vous rappelons que nous faisons partie du concours. Donc pour les enfants, ça a été un petit peu le leitmotiv qu'ils ont entendu pendant 6 mois.
Bon, les gains, qu'est-ce que ça a été, Sophie ? Donc au total, les 8%, c'est bon, vous les avez ?
Oh bah largement.
Largement.
Chez nous, ça a été 18%, je crois. Et pourtant, avec des gestes qui nous paraissaient finalement peu importants.
Donc vous continuez maintenant ?
Oui, en fait, on s'est rendu compte, mais c'est le principe de l'habitude, c'est qu'au départ, elle nécessite un effort, et finalement, au bout d'un moment...
C'est intégré.
En tout cas, ils ont intégré un petit peu ça. Voilà, c'est pas gagné tous les jours, mais en tout cas, il y a du progrès.
Et j'imagine que dans la famille nombreuse, il va y avoir des adolescents.
Oui.
C'est plus difficile avec l'adolescent qu'avec les plus petits ?
C'est différent, en fait, l'attitude, parce que les plus petits, ils obéissent, j'allais dire, sans comprendre pourquoi. Ils éteignent parce qu'on leur dit d'éteindre, mais ils n'ont pas compris d'où vient l'énergie, ils n'ont pas compris pourquoi il faut l'économiser. Les plus grands, eux, c'était plus... c'était pas tellement la pratique qui les a rebutés, c'est le discours, en fait. Je pense qu'ils nous trouvaient moralisateurs. Voilà, puis vous savez, c'est un discours qu'ils entendent aussi beaucoup à l'école. Mmh. Bon, on a une fille qui a des cours en géographie, on lui parle beaucoup du développement durable, et elle nous disait, oh là là, ça va pas recommencer à la maison aussi.
Oui.
Justement, l'association Eliant avait le mérite d'avoir voulu le présenter sous forme ludique. Donc, les jours où il y a eu des manifestations, justement, sous forme ludique, j'ai convié mes deux grands en leur disant, allez, venez, on essaiera de découvrir ça sous un autre angle. Donc là, ça a bien marché, ils sont revenus contents de la journée. Et puis c'était une manière d'approcher l'économie d'énergie d'un point de vue un peu moins, vous voyez, discours de...
De curé environnementaliste, on va dire. Allez.
Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai eu une gueule d'atmosphère ? J'ai trouvé ça comique, une gueule de gaz carbonique. J'ai pensé que c'était bête. Réchauffement de la planète, ça m'a fait des frissons. La combustion du charbon, ça m'a mis en colère pour le système solaire. Ça m'a fait des frissons. La combustion du charbon, ça m'a mis en colère pour le système solaire.
Atmosphère, et oui, ça tombait pas mal du tout. Donc cette famille Énergie Positive, donc avec l'association Eliant dans le département de l'Ain. Alors évidemment, vous allez me dire, moins 18%. Simplement que sur du comportemental, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas changé une chaudière classique contre une chaudière à condensation gaz. Non, c'était que ça. Si on part avec 23 degrés dans son salon, c'est sûr qu'on peut descendre assez vite. Bien, mais quand même, non, ça avait l'air d'être une famille qui fonctionnait, on va dire, entre guillemets, à peu près normalement, mais juste nos comportements, moins 18%. Alors vous avez écouté ça avec beaucoup d'intention parce que vous connaissez ce sujet. Donc Thierry Salomon, je veux dire que vous êtes le président de l'association des Négawatts, donc une association d'ingénieurs, d'énergéticiens. Puis donc vous venez de sortir. Un scénario énergétique vertueux est possible, c'est ce que vous nous dites, donc on va en parler dans quelques instants. Mais déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette famille à énergie dite positive ? Parce que vous les connaissez en plus.
Oui. D'abord, on a l'année dernière, au sein de Négawatt, monté un petit concours, un concours des Négawatts créatifs.
Alors, les Négawatts, ce sont les watts que l'on ne consomme pas.
C'est les watts qu'on ne consomme pas. Et on s'est dit, ce qu'il faut, ce n'est pas uniquement un truc d'ingénieur. Il faut quelque part qu'on arrive à le visualiser, le rendre plus ludique, etc. Et on s'est aperçu en fait qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à être faites. On a primé un jeu, une sorte de SimCity sur l'énergie. Mm-hmm. On a primé une pièce de théâtre. On a primé un conte. Et puis, on a pu aussi primer toute une série d'initiatives. Et ces initiatives, il y a deux ans, justement, c'est sur ces familles à énergie positive.
Artiste, emparez-vous de l'écologie. Vous l'avez
Absolument.
Déjà fait, mais continuez, c'est fondamental.
Voilà. Artiste, s'il vous plaît, travaillez avec les ingénieurs maintenant. Et ingénieurs, travaillez avec les artistes.
Et les philosophes aussi.
Et un peu de philosophie aussi, bien sûr. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens n'ont pas d'idée des négawatts, de qu'est-ce que ça représente. Il nous faut des compteurs à négawatts. Et il faudrait que nos industriels mettent en place ces compteurs. Et ce n'est pas si difficile que ça. Ça voudrait dire quoi ? Sur un réfrigérateur, par exemple, on peut très bien imaginer qu'il y ait de façon très claire une indication sur la consommation du réfrigérateur et puis une indication sur la consommation standard, par exemple. Mmh. Et je pourrais à ce moment-là regarder, visualiser les négawatts, c'est-à-dire la différence entre la consommation standard, normale et conventionnelle, et puis la consommation effective.
On a presque ça sur une voiture lorsqu'on vous indique la consommation instantanée.
Exactement. Ouais, ouais. Exactement.
Alors, parlez-nous s'il vous plaît donc, de ce scénario que vous avez rendu. Donc, l'association Négawatt, un scénario énergétique vertueux et possible. Donc, vous avez sorti ce rapport il y a quelques jours. Ça repose donc sur quoi ? D'abord, c'est quand même sur un horizon, on va dire, à peu près 2050. Vous êtes à peu près
2050. Alors pourquoi 2050 ? Parce que c'est la bonne échelle de temps, c'est à peu près deux générations. Et si on a simplement le nez collé, je dirais, jusqu'à 2020-2030, on ne regarde pas ce qu'il y a après et on peut faire les mauvais choix. Donc on a cette vision large à cet horizon 2050 qui est relativement proche. Hein. Mm-hmm. On est plus près de 2050 que l'on est de 1968 actuellement.
Ce qui est très intéressant, Thierry Salomon, c'est que vous n'êtes pas parti comme le fait le monde de l'énergie en partant des ressources, mais vous êtes parti des principaux besoins en énergie.
Oui, ou plus exactement du service énergétique rendu. C'est-à-dire qu'on a regardé finalement de quoi on avait besoin. Alors on ne l'a pas fait de façon normative, mais on a regardé par exemple quel était du parc, puisqu'on a parlé de réfrigérateur tout à l'heure, quel était le parc de réfrigérateur chez les Français. Demain, bien entendu, dans le scénario négawatt, il y aura aussi des réfrigérateurs. Ce n'est pas un scénario de retour à la bougie ou à quelques autres pratiques des deux siècles précédents. Argument classique qu'il faut évidemment balayer. Donc, il y aura des réfrigérateurs. Mais en même temps, on peut faire deux choses. Un, avoir un réfrigérateur qui soit adapté à la taille de ce dont on a besoin. Un gros réfrigérateur pour trois pots de yaourt qui sont à l'intérieur, il a beau être très performant, ça reste un gros réfrigérateur. Donc, un, adaptation à la taille, à l'usage, etc. Et ça, c'est la sobriété. Et puis ensuite, après, un réfrigérateur performant, et ça, c'est l'efficacité.
Donc, l'efficacité énergétique d'un côté.
Oui.
Économie donc, d'énergie de l'autre. Donc vous n'êtes pas parti...
Sobriété. C'est l'addition sobriété-efficacité qui représente ce qu'on appelle les économies d'énergie.
Ce que je voyais dans votre rapport, c'est que la France consomme près de 3000 TWh, donc c'est immense énergie. Mais ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que presque, parce qu'on n'est pas forcément physiciens les uns les autres, mais près d'un tiers se dissipe sous forme d'eau chaude dans l'atmosphère ou dans les rivières par les centrales thermiques. Racontez-nous.
Un tiers sont effectivement perdus en perte, à peu près 900 TWh. Alors les TWh, c'est un mot un peu compliqué, ce sont les milliards de kWh. 900 milliards de kWh sont actuellement perdus par notre système de production d'électricité, tout simplement parce qu'on fonctionne avec ce qu'on appelle des centrales thermiques, c'est-à-dire des centrales sur lesquelles on va utiliser la chaleur pour ensuite faire de la vapeur et produire de l'électricité.
Avec un rendement de 33%.
Alors on le fait avec du nucléaire, du gaz, mais aussi du charbon, etc. Et l'ensemble de ces centrales ont en gros un rendement entre 33 et 38%. 33% pour le nucléaire, 35% pour le futur éventuel EPR. Donc le gain n'est pas tout à fait prodigieux. Et donc il y a des pertes tout à fait considérables qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas récupérées. Ces pertes-là, de 900 milliards de kilowattheures, représentent l'équivalent de la totalité de la chaleur qui est consommée en France pour les bâtiments, les bureaux, l'industrie, etc. Alors, vous voyez l'ampleur.
Thierry Salomon, moi je reviendrai après sur les deux gisements principaux, donc à savoir le bâtiment et les transports. Frédéric, ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, donc je le rappelle, La dictature du carbone qui vient d'être édité chez Fayard, je crois qu'on peut le trouver dès lundi, là c'est une espèce de première là, aujourd'hui avec, avec nous. Bon, on a compris ce que vous reprochiez donc au tout carbone, mais parfois on arrive à des résultats à l'opposé du but recherché. Exemple, la voiture et la prime à la casse.
Ah bah, la voiture, c'est une merveille. C'est une merveille. On veut réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la voiture. Et donc, plutôt que de contraindre l'usage et de réaménager le territoire ou les fonctions des villes de façon à ce que chacun de nous puisse moins utiliser la voiture, non, on a décidé, on a demandé aux industriels de réduire les émissions au pot d'échappement. Mais avec la plus mauvaise méthode, en tablant tout sur le diesel. Sous prétexte qu'il émet moins.
Il va être taxé, d'ailleurs,
les taxes vont doubler.
Ce que j'ai vu passer, là, aujourd'hui.
Voilà, donc le diesel, en théorie, émet moins de CO2 que l'essence parce qu'il consomme moins de litres par kilomètre. Sauf que par litre, compte tenu de son contenu énergétique, il émet 12% en plus d'essence. Voilà, donc tout ne tient que sur la fiscalité écologique. En fait, c'est un avantage totalement artificiel. Donc on a tout tablé sur le diesel, donc on a augmenté la pollution de l'air. On a.
Oui, parce que on va le rappeler, on pourra faire une émission un jour de nouveau sur les particules fines, on l'a déjà fait. Mais le chauffage au fioul, même s'il est moins important aujourd'hui, et les transports. Par le diesel, c'est ce que nous respirons.
Ah ben c'est invraisemblable. Enfin, c'est, voilà, autant un camion de cuivre.
Si vous êtes allergique, les uns les autres aussi, vous pouvez réfléchir à ce problème.
Ah oui, mais si vous voulez, le problème du diesel, c'est que la technologie est telle qu'il doit tourner à haute vitesse, à haut régime, pendant un certain nombre de kilomètres. Et ça ne correspond pas du tout au régime moyen que lui impose l'automobiliste. Du coup, le diesel émet des particules qu'il ne devrait pas émettre. Bon.
Donc c'est bon pour les camions, non, tout simplement.
Pour les camions, oui, parce qu'ils sont au régime tout le temps. Donc oui, effectivement, depuis 20 ans, je crois qu'il y a 90 ou 95% de particules émises en moins. Voilà. Parce que les moteurs tournent vraiment au régime. Il faudrait que le conducteur s'adapte à son moteur et pas l'inverse.
Donc une petite voiture diesel est une hérésie.
C'est une hérésie complète en ville et on veut la remplacer par une voiture électrique où là, on ne changera pas le problème de l'occupation de l'espace dans la ville. Pour en revenir au bonus-malus et à tous ces procédés pour favoriser une auto soi-disant propre qui donc ne l'est pas. Ce qui est amusant, c'est qu'on a complètement oublié le fait que quand on introduit sur le marché une voiture neuve, ben on introduit du carbone gris. Vous savez, le carbone qui a été consommé, émis, pardon, par la fabrication de la voiture.
Et ça, si mais vous... ça ne fait pas rêver, ça, Frédéric Danhé.
Ben oui, mais c'est...
Carbone gris sur une publicité.
Ben oui, mais si votre petite voiture qui consomme que 4 litres, ben oui, mais vous avez 7 tonnes de carbone derrière qu'il faudra bien amortir en roulant. Le problème, c'est qu'on vous demande de la changer à peu près tous les 7 ans. Cette dette carbone n'a jamais été amortie. Donc, vous ne faites qu'enrichir l'atmosphère en CO2.
Vous êtes pour les voitures d'occasion. Voilà.
Moi, je suis pour les voitures d'occasion. Je suis simplement, il faut être logique jusqu'au bout, on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 de la voiture. Très bien. Alors, on se fixe une limite à 20 ans, à 30 ans. Donc, on se fixe une limite de voitures. C'est-à-dire, il y a 27 millions de voitures. Il n'y en a pas une de plus. On en fait sortir régulièrement. On en fait rentrer régulièrement. Et on... Mais ça, le problème, c'est que ça change complètement notre système de valeurs, notre système de pensée.
C'est moins qu'on puisse dire.
Mais voilà.
Ça s'appelle la révolution, quoi.
Oui, c'est une révolution. Mais si vous voulez, l'indicateur carbone, c'est ce qu'il nous dit, en fait. Mais on ne veut pas l'entendre, parce que l'entendre, ça veut dire remettre en cause notre mode de vie. Donc, si vous voulez vraiment faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre des voitures, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est limiter l'usage de la voiture et limiter le nombre de voitures à l'échelle nationale.
Je ne sais pas quelle est l'énergie grise de Zaza Fournier pour ce disque. Voilà, 15 ans. Alors, c'est peut-être la durée d'amortissement du CD. Non, c'est le titre de la chanson.
Vous allez voir. D'accord.
CO2 en amour. Denis Chessou.
Oh, ta main dans mes cheveux. Oh, je suis troublée un peu. Oh, c'est un charmant dilemme. Oh, dis-moi, est-ce que je t'aime? Oh, j'ai caressé ta peau. Oh, et j'ai trouvé ça beau. Un peu froid. Oh, j'ai 15 ans dans tes bras. Est-ce que
au ciné. Oh, cela m'importe peu. Oh, tant qu'on est tous les deux.
Dit, hein, j'ai 15 ans avec toi, c'est ça. Donc c'est tout le côté régressif dont je vous parlais, mais c'est formidable. Elle est heureuse, Aza Fournier, nous on aime bien parce que c'est un album France Inter, elle est en concert un petit peu partout. Elle va faire péter son taux de CO2, elle aussi, il n'y a pas de raison. Thierry Salomon, alors je rappelle que vous êtes le président de l'association donc, des Négawatts, que vous venez de sortir donc, un scénario. Je disais que les deux gros gisements principaux, on ne s'en étonne pas, c'est à la fois le bâtiment et le transport. Comment on peut s'y prendre? Qu'est-ce que c'est le quotidien des gens sans que ce soit la régression, on l'a très très bien compris, parce que ça c'est le truc habituel. Ah là là, je ne vais plus aller voir mes gamins, je ne vais plus pouvoir prendre l'avion pour aller au Canada, etc. Bon, ça c'est ce que pensent les gens, hein, très très souvent. Donc c'est quoi le scénario, transport et maison ou bâtiment, pardon.
Alors d'abord sur le bâtiment, on n'arrivera pas à faire une transition énergétique telle que celle qu'on présente s'il n'y a pas un effort considérable sur la rénovation du bâtiment, c'est clair. Et en travaillant uniquement sur le neuf, comme l'a fait en gros le Grenelle, ça ne marchera pas.
C'est 1% de bâtiments neufs, de 300 000 à 400 000, on va dire, logements tous les ans.
Pourquoi? Parce qu'on a un gros problème de vitesse, de rythme d'exécution. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord pour dire le carbone n'est pas uniquement notre seul indicateur et on travaille au sein de Négawatt sur plusieurs indicateurs qui sont évidemment le carbone, mais qui sont aussi l'énergie grise, qui sont aussi les énergies primaires, les fossiles, les déchets nucléaires, etc. Et il faut essayer de trouver le meilleur compromis par rapport à, je dirais, aux trois cavaliers de l'apocalypse qui sont devant nous, c'est-à-dire le changement climatique, la fin des fossiles et puis le risque nucléaire. Et notre scénario essaye de trouver, je dirais, le meilleur chemin. On a donc une vision à 2050, bien sûr, mais en même temps, ce qui est important, ce n'est pas tant la vision que la trajectoire. Ce n'est pas tant la fin du film, la belle image de fin du film, que la façon dont on y arrive. Sur le bâtiment, il faut aller vite, mais en même temps, le problème est tel qu'il nous faut derrière à peu près 30 à 40 années derrière nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir en passer par une obligation de rénovation, qui ne se fera pas n'importe comment, qui ne sera pas demain, etc. Mais il faut résolument s'engager là-dedans, sinon on n'ira pas suffisamment vite. En ce qui concerne ce qu'on appelle la mobilité, les transports, il y a deux choses différentes. Il y a la mobilité des personnes et puis le transport des marchandises, le fret. Et là, dans notre scénario, on a fait un effort beaucoup plus important que dans les précédents scénarios 2003 et 2006 d'investigation, en ayant un regard non pas uniquement sur la voiture ou le camion, mais un regard sur le développement du territoire, sur l'urbanisme, sur quels sont les objets, qu'est-ce qui se passe si on relocalise une série de fabrications et qu'est-ce qu'on va fabriquer demain. Donc un vrai travail sur l'industrie, sur la production des biens d'équipement et sur la façon dont on pourrait diminuer la consommation d'énergie et donc les volumes transportés. Vous savez qu'il y a à peu près un tiers des volumes transportés par camion qui le sont pour les déchets. Alors après, derrière, il faut donner des réponses. Il est clair que même si on a un effort considérable sur les transports collectifs, à un moment donné, on n'y arrive pas, notamment en termes de mobilité. Et il n'est pas question pour nous de dire demain, on ne pourra plus, de façon coercitive, aller voir la tante, la tata, si tu es à Vierzon, etc. Non. Et à un moment donné, on aura besoin...
Ah, vous aussi, êtes à Vierzon ? Ah oui, d'accord. On a un point commun.
On aura besoin à un moment donné, de véhicules qui peuvent être des véhicules individuels ou tout au moins d'améliorer ce qu'on appelle la rupture de charge. C'est-à-dire, souvent, on a des gens qui vont faire un trajet de 800 km parce qu'ils se disent, tout au bout, il va falloir que je prenne ma voiture pour faire les 5 à 10 derniers kilomètres. Mmh. Et c'est ça qu'il faut améliorer, cette espèce de fluidité du ticket de transport qui devrait commencer chez vous et finir sur le point d'arrivée.
Alors, on a picoré, parce que là, on ne peut pas détailler tout ce scénario, Nigawatt, mais globalement, question à tous les deux... Est-ce que l'on peut appliquer, on va dire, une sobriété dans un système capitaliste qui est basé sur l'accumulation, la mise en compétition de tous contre tous ? Enfin, bref, est-ce qu'on peut engager une sobriété dans un modèle quand même productiviste aujourd'hui, Thierry Salomon ?
Réponse non, très clairement, de notre part. La réponse est non. Je pense qu'on a fait un travail où les économistes, les gens qui font des scénarios nous disent « Oui, mais... combien ça coûte, votre truc ? Combien ça coûte ? Vous nous le faites à combien, le scénario négawatt ? Ce n'est pas du tout la bonne question. D'abord, la bonne question, c'est ça coûte combien ? Par rapport à quoi ? Par rapport au prix de l'inaction ? Et quel est le coût de l'inaction ? Donc, il faut regarder la balance entre les deux. Et puis, regarder, évidemment, l'ensemble des effets induits, y compris en matière d'emploi. En même temps, il est clair qu'on a donné... la priorité aux limites physiques, à la réalité des choses. La réalité devant nous, c'est le carbone, on en a parlé, c'est la fin des fossiles faciles, c'est la problématique du risque nucléaire. Et on a essayé de travailler sur ces trois points parce que de toute façon, c'est l'iceberg du Titanic qui est devant nous. Et donc, il faut en prendre conscience. Sortir du court-termisme en matière de choix économiques et financiers pour avoir un regard un peu plus large.
Alors, Frédéric Danhé, dans cet ouvrage « La dictature du carbone », donc vous indiquez bien que ce carbone indique la réalité du fonctionnement de notre société. Il en est à la fois la marque, le moteur, le rejet de notre mode de vie. Il nous lance ce défi parce que nous sommes... Maintenant, on va traquer donc le CO2 dans les paquets de biscuits. Donc, on descend un petit peu partout, on irrigue dans tous les sens. Donc, ça, parfois, ça vous énerve aussi. Mais je dirais, quelle est la conséquence à agir contre nos intérêts ? Et là, vous avez une réponse. Vous dites, simplement, c'est la condition humaine, quoi.
Ben oui, on ne peut pas agir contre notre propre intérêt, sauf si on y est obligé, sauf si elle renverse. Et le problème de l'histoire de France, c'est que ces renverses sont faites de façon brutale, donc c'est ma crainte. En fait, tout cela, moi je suis totalement d'accord avec le rapport Négawatt que j'ai lu. Le problème, c'est que la sobriété, on ne l'atteindra pas, parce que la société ne nous y incite pas, parce qu'il y a ce fameux effet rebond qui fait que quand vous achetez une voiture qui consomme moins, ben vous allez rouler plus. Quand vous achetez un frigo qui consomme moins, vous allez acheter un frigo plus gros.
Comment ça c'est prouvé.
Enfin, toutes les études l'ont montré. C'est bêtement humain et en plus la société nous y incite. Comment casser cet effet rebond
C'est-à-dire que je vais économiser 100 d'un côté, mais je vais les réinvestir ailleurs.
Ben oui, on fonctionne toujours à budget égal. J'économise 100, je vais l'investir ailleurs. Il faudrait juste que notre société nous dise non, ce que tu as économisé, tu vas l'épargner, tu vas le mettre ailleurs. Mmh. Et donc oui, il faudrait avoir en permanence une idée de ce que l'on consomme par rapport à ce que l'on produit. Si les consommateurs étaient très très proches des producteurs, qu'ils pourraient être eux-mêmes, déjà ça change.
Mais ça, on n'en veut pas en France.
Ah ben, on n'en veut pas. La production d'électricité, d'énergie doit être centralisée. On est dans un pays, non pas jacobin, mais capétien. Tout doit être centralisé. Et l'idée d'atomiser la production d'énergie renouvelable, de foutre des panneaux solaires partout, de transformer les gens en producteurs coopératifs avec leurs voisins, avec l'hypermarché qui a une grande surface de toit, non, cette idée est insupportable. Mais elle casserait, je pense,
capétien, dans l'œuf. Capétien, jacobin, polytechnicien, ça rime.
Bah oui, oui, ça rime, ça rime. Non, mais blague dans le coin, c'est tout ça est très bien. Tout ce qu'ont fait les villes, il y a beaucoup de villes qui ont fait des choses remarquables avec des bilans bien carbone, sûr. Avec des plans climat. Ce qu'a fait Eliante dans l'un est remarquable. Mais tout ça, ce ne sont que des graines qui germent à peine. Et pour qu'elles germent véritablement, il faut que le mode de société change, il faut que notre mode de pensée change. Et donc, c'est-à-dire sortir, non pas forcément du capitalisme, mais du néolibéralisme, mon cher Denis.
Voilà, merci à vous. La dictature du carbone aux éditions Fayard, Frédéric Doré. Donc, nous allons continuer donc, à arroser ces graines pour qu'elles fleurissent au cours de cette émission. Mais vous en avez donc l'habitude. Merci à Gilles Gaillard, à Yann Bouillot, à Stéphane Combe, à Valérie Ayestaraï qui a réalisé l'émission. Merci aussi pour la petite collaboration à Albert Houck du Maine-et-Loire, de Patrick Deschamps de l'Isère. Je n'oublierai pas Jean-Baptiste Audibert, Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Nathalie Fontrelle, avec Jean-Marie Pell. Et puis je vous emmènerai, là ça va être autre chose, on va aller voir le Bouquetin en Chartreuse. Ouais, si, on a, oui, peut-être plus, peut-être, oui, on y va.